l'écoute de RFI, il est 13h en temps universel, 8h à Washington, l'heure d'un nouveau journal. Avec vous, Karine Belisha, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. Peut-on se moquer de Jeff Bezos quand on travaille au Washington Post, titre de presse qui lui appartient? Une caricaturiste du quotidien américain vient de démissionner. Son dessin mettant en scène le milliardaire avait été rejeté par la direction. En Europe, dès la chute de Bachar el-Assad, le débat pour un retour des Syriens exilés dans leur pays a été lancé. En Allemagne, les conservateurs et l'extrême droite font pression et réclament de ne pas attendre. En pleine campagne électorale, la ministre de l'Intérieur précise aujourd'hui dans une interview quels critères pourraient ou non justifier une telle mesure. Et puis la Crimée est victime d'une marée noire après le naufrage de deux navires pétroliers. La pollution a atteint la grande ville de Sébastopol dans la péninsule ukrainienne annexée par la Russie il y a 11 ans. Il est de plus en plus difficile d'être caricaturiste de presse de par le monde, alors que la France s'apprête à célébrer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Aux États-Unis, c'est une toute autre histoire qui secoue la rédaction du Washington Post. Bonjour Marius Roland.
Bonjour.
Une dessinatrice vient de démissionner. Sa caricature mettant en scène Jeff Bezos, multimilliardaire à la tête d'Amazon et aussi propriétaire du journal, a été retoquée.
Les principaux patrons américains, dont Jeff Bezos, prosternés au pied d'une imposante statue. Une statue de qui? Si on ne voit pas son visage, on le devine à sa silhouette bedonnante dans son costume trop grand. Donald Trump, tout sourire et agenouillé, les milliardaires lui tendent des sacs d'argent. Le coup de crayon peut faire grincer des dents. Et pour cause, Jeff Bezos, patron d'Amazon et propriétaire du Washington Post, a récemment rencontré le président élu. Trump avait promis pendant sa campagne de redresser les médias à coups de poursuites judiciaires. Décidée à illustrer ce rapport de force, la dessinatrice Anne Telnaes est vite rattrapée par sa direction qui empêche la parution du dessin tout en affirmant son indépendance à l'égard du propriétaire. Pas de quoi convaincre la caricaturiste autrefois récompensée par le prestigieux prix Pulitzer. Dans un article publié hier sur son blog, elle promet de ne jamais s'arrêter de mettre la vérité en lumière avant de conclure « La démocratie meurt dans l'obscurité », la devise du Washington Post.
Marius Roland du service international d'RFI. Voilà des récompenses faites pour irriter Donald Trump. Joe Biden a choisi d'attribuer avec un soin tout particulier la prestigieuse médaille de la liberté à quelques jours de l'investiture de son rival républicain. L'encore président en exercice a décidé notamment de décorer la primatologue Jane Goodall, mais aussi George Soros, haï par le camp Trump, ou encore Hillary Clinton, candidate démocrate battue par celui-ci en 2016. Pas de répit à Gaza, 88 personnes y ont été tuées en 24 heures par des frappes israéliennes, alors que le Hamas a diffusé une vidéo d'une otage. Liri Albag, une soldate de 19 ans, demande à son gouvernement d'agir pour obtenir sa libération. Message repris par des milliers de manifestants réunis hier soir, comme tous les samedis soirs, à Tel Aviv, pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et le retour de tous les otages. Au nord, Israël accuse le Hezbollah de violer l'accord de trêve conclu fin novembre. Les autorités de l'État hébreu menacent d'agir avec force contre le groupe chiite libanais s'il ne se retire pas, comme prévu, du sud du fleuve Litani. En Syrie, la situation est loin d'être stabilisée, notamment dans le nord du pays. Selon l'ONG OSDH, les combats entre les groupes armés soutenus par la Turquie et les forces kurdes syriennes ont fait une centaine de morts ces deux derniers jours. L'objectif des factions pro-turques est de chasser les Kurdes de la région. Sans attendre, en Europe, nombre de dirigeants ont annoncé que les règles pour les réfugiés syriens allait changer avec la chute du régime Assad, y compris en Allemagne, qui a accueilli près d'un million de Syriens depuis 2015. À Berlin, Pascal Thibault.
Comme le prévoit notre loi, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés examinera et révoquera les statuts de protection si les personnes n'en ont plus besoin en Allemagne parce que la situation en Syrie s'est stabilisée. Pour la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, les dossiers des réfugiés qui bénéficient d'un statut de protection subsidiaire doivent être examinés. Il s'agit de Syriens qui ne bénéficient pas du droit d'asile en raison de persécutions individuelles, mais à cause de la guerre dans leur pays. La fin du régime Assad rend en principe un retour possible. La ministre souligne toutefois que la situation sécuritaire sur place doit être observée de près et que Berlin se coordonnera avec ses partenaires européens. Les réfugiés syriens qui ne bénéficient pas d'un autre titre de séjour en Allemagne, n'y ont pas de travail ou ne sont pas en formation, pourraient être incités à rentrer dans leur pays. Un programme de soutien au retour volontaire doit être renforcé. La ministre souligne par ailleurs que les personnes bien intégrées et qui ont trouvé du travail restent les bienvenues en Allemagne. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Moscou affirme que Kiev a lancé une contre-offensive dans la région russe de Koursk. Les forces ukrainiennes y avaient perdu du terrain ces dernières semaines. Après une percée spectaculaire dans cette région frontalière l'été dernier, Kiev confirme à demi-mot. La région en pleine guerre doit aussi faire face aux conséquences d'une marée noire. Trois semaines après le naufrage de deux navires pétroliers en raison d'une tempête, la pollution qui affecte le sud-ouest de la Russie et la Crimée continue d'affluer vers les côtes. Elle a atteint Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Lucille Gimbert.
Des nappes de mazout et des oiseaux couverts de fioul ont été découverts dans différents secteurs en Crimée, notamment près de Sébastopol, la principale ville de la péninsule. Mi-décembre, deux vieux tankers russes ont fait naufrage lors d'une tempête dans le détroit de Kerch, situé entre la Russie et la Crimée annexée. C'est le point de passage entre la mer Noire et la mer d'Azov. Les navires contenaient à eux deux 9200 tonnes de pétrole et d'après les autorités russes, au moins 26% de cette cargaison pourrait s'être écoulées dans la mer. Quelques 200 000 tonnes de sol pourraient être affectées sur le littoral. Un désastre écologique a reconnu fin décembre Vladimir Poutine. Avant cela, des scientifiques russes avaient critiqué en conférence de presse la gestion de cette catastrophe par les autorités. Une prise de parole rare dans le contexte répressif qui fait rage en Russie. Des équipes de nettoyage et des bénévoles ont déjà retiré plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sable contaminé sur le littoral russe. Mais il manque d'équipes et la guerre entre la Russie et l'Ukraine empêche les deux pays de coopérer comme ils l'ont fait par le passé pour endiguer des pollutions aux hydrocarbures.
En Autriche, le chancelier conservateur jette l'éponge. Le secrétaire général va assurer l'intérim. Karl Nehammer a annoncé hier soir sa démission après l'échec des négociations avec les sociaux-démocrates pour former le nouveau gouvernement. Des négociations tripartites avec les libéraux qui avaient pour but de faire barrage à l'extrême droite arrivée en tête des législatives en septembre. Cette décision pourrait entraîner des élections anticipées. En France, Marine Le Pen est attendue à Mayotte un mois après le passage du cyclone Chido dans l'île. La chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée prévoit de rencontrer les secouristes et les sinistrés. Mercredi prochain, le gouvernement Bayrou doit présenter son projet de loi d'urgence pour Mayotte en Conseil des ministres. Toujours en France, les autorités interdisent tout rassemblement dans Paris et au marché de Rungis dès 18h ce soir. Mais la coordination rurale maintient son appel à rallier en voiture ou en tracteur la capitale dès cet après-midi pour manifester lundi. Le deuxième syndicat du secteur entend faire pression sur le gouvernement pour obtenir la sauvegarde de l'agriculture française. De la culture pour refermer ce journal et les sorties cinéma de cette semaine en France avec un premier long métrage de la tuniso-canadienne Myriam Jouber, particulièrement remarquée. La source explore les fractures laissées par la radicalisation djihadiste en dressant le portrait de la mère de deux jeunes hommes partis combattre en Syrie aux côtés du groupe État islamique. Elisabeth Le Quéret.
Il y a 5 ans, Myriam Jouber avait été nommée aux Oscars pour Brotherhood, un court-métrage sur les répercussions de la radicalisation dans une famille tunisienne. Avec son nouveau film, elle poursuit sa réflexion sur ce sujet délicat. Dans La Source, un couple de paysans dont les deux fils se sont enrôlés auprès de Daesh voit sa vie bouleversée lorsque l'un d'eux revient. Mehdi n'a plus rien de l'adolescent qu'ils ont connu, sombre et mutique. Il a à ses côtés une jeune femme voilée qu'il a, dit-il, épousée en Syrie. Il s'ensuit une narration qui procède par remontée fragmentaire du passé violent de Mehdi, tout en tissant une chronique familiale et intime dans laquelle l'amour que Aïcha, la mère, porte à son fils, tient le rôle principal. Myriam Jouber force parfois sur le didactisme, mais finit par emporter le morceau en jouant habilement des codes entre réalisme et fantastique, donnant à son huis clos des allures de fable shakespearienne campée dans l'arrière-pays tunisien.
Et puis on suivra le parcours d'Emilia Pérez aux Golden Globes. Ce soir à Los Angeles, la comédie musicale de Jacques Audiard a récolté 10 nominations. Emilia Pérez raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.